voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Face aux réalités humaines, économiques et écologiques actuelles, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur notre devenir et sur le rôle que chacun peut jouer. Il ne s'agit plus d'être simplement spectateur d'un système qui nous démange, mais de devenir l'un des acteurs du changement. Jean Maison est le fondateur et directeur du comptoir d'herboristerie. Les plantes, leur histoire et leurs vertus sont une de ses passions. La voix du Kaizen donne la parole à Jean qui revient sur son parcours.
Je suis un spécialiste des plantes médicinales. J'ai bientôt, en 2016, nous allons fêter les 40 ans du début de mon activité. J'ai commencé en 1974, mais réellement en 1976, professionnellement. Et ça va faire 40 ans que je suis dans la production et le négoce et l'univers des plantes bio pour l'herboristerie, l'agroalimentaire et d'autres usages. Voilà.
On va faire un saut dans le temps, on va retourner dans 40 ans en arrière et j'aimerais savoir comment a démarré l'entreprise. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 40 ans vous décidiez de vous lancer dans la création d'une entreprise sur les plantes médicinales ?
Alors la première décision, c'est que je suis issu d'une famille corrézienne, de Saint-Augustin, qui, pour comme beaucoup de familles de ces générations, autour des années 50-60, ont émigré à Paris. Et je ne me suis jamais adapté, j'ai vécu longtemps à Paris, je ne me suis jamais adapté à cette vie. Et mon seul objectif, mon premier objectif, c'était de rentrer chez moi. Donc, dès que j'étais en âge de mettre en œuvre ce projet, je suis rentré chez moi. Il se trouve que, n'ayant pas fait d'études spécifiques, ma passion et mon intérêt étaient complètement axés autour déjà de la phytothérapie et des plantes. Et donc, rentrant dans mon pays et disposant de peu d'espace et de très peu de moyens, j'ai commencé à faire de la cueillette de plantes sauvages que je vendais sur les marchés et un peu de négoce et je travaillais chez des négociants. Voilà comment j'ai commencé.
Donc cette passion pour la phytothérapie, comment est-ce que vous l'expliquez ? Parce que là on est à Paris avec cette envie donc de rentrer dans votre pays. Et avec cette envie aussi de développer cette connaissance sur les plantes, comment est-ce que vous expliquez cet intérêt et cette passion envers la phytothérapie ?
Alors, je la dois à plusieurs personnes, mais à deux personnes en priorité, à mon grand-père Jean Mas, puisque toutes mes vacances, j'étais en sa compagnie dans la ferme familiale. Donc j'ai été confronté baigné dans l'univers de l'agriculture traditionnelle corrézienne finissante. Et donc j'en ai immédiatement éprouvé une puissante nostalgie et je comprenais que c'était la fin et je comprenais que c'était fondamental de sauver tout ce qui pouvait se sauver en termes de conscience du rapport au... Enfin, en tout cas, de la conscience de ce qui était éveillé en permanence autour de ces hommes et ces femmes qui travaillaient ces territoires. Ensuite, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, puisque les choses étaient absolument sœurs.
Mais là, on est il y a 40 ans. Donc aujourd'hui, on se retrouve à la fois avec Ecobio, qui, elle, a 35 ans. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont convaincus qu'il est urgent de penser ou de repenser autrement notre société, notre système, nos modes de vie, nos modes de consommation. Quelle était la situation il y a 40 ans ?
Le deuxième, c'est Albert Gazier, qui a été mon formateur en phytothérapie, que j'ai rencontré quand j'étais un très jeune garçon, et qui a été mon maître. J'ai eu la chance de cette rencontre, il serait trop long de développer, Mais les années que j'ai passées avec lui dans le lien technique et également spirituel, ça a été absolument prépondérant dans mon choix. Puisque l'objet, bien sûr, c'était de rentrer chez moi, mais il fallait vivre et faire quelque chose. Donc, dans l'Orient, j'aurais pu faire cantonnier ou j'aurais pu faire je ne sais quoi. Mais ceci étant, donc voilà les deux points d'ancrage dans l'organisation de mes choix. Ensuite, pour répondre, il y a 40 ans, il y a 40 ans, on était déjà, on va dire... La société agraire traditionnelle était déjà détruite en grande partie. La culture traditionnelle de ma région, comme de beaucoup de régions de France, était déjà en train de mourir. Et c'était vraiment... c'était la fin. C'était la fin. Et en tout cas, je le ressentais comme tel. D'un certain rapport au monde. Et pour ce qui me concerne, j'avais déjà, à travers beaucoup d'actions et de visions et d'actions diverses, j'étais déjà fortement engagé dans une réflexion écologique. Comment, parce qu'évidemment, si on reprend le vieil adage qui a été repris dans un très beau livre de Lucien Gerfagnon qui s'appelle « C'était mieux avant », un culte de la nostalgie s'installe génération après génération. Donc évidemment, c'était pas mieux avant au sens où la vie n'était pas forcément plus simple. Au contraire, elle était bien, à bien des égards, bien plus dure. Mais en tant qu'enfant, j'ai compris ce qui allait se perdre d'un point de vue de l'esprit et d'un point de vue des pratiques. Et si on revient à Arthur Jung, en 1786, 87, 88, quand il traverse la France, et en partie le Limousin, c'était mieux avant. On se rend compte du regard d'expert qu'il porte sur les éléments d'agronomie traditionnelle. Et là aussi, on se penche avec nostalgie vers cette époque. Bien que socialement, conjoncturellement, économiquement, ce soit des phases... Donc toute époque est difficile. Donc la question simplement, pour revenir aux années 70, c'est que c'est la mort d'un certain nombre de générations, de pratiques, d'usages. C'est l'intégration de façon violente de l'industrie non raisonnée et de... On passe du paysan au chef d'exploitation... Et donc, on rentre dans une pratique qui peut se comprendre d'un point de vue technique, mais qui a oublié un élément fondamental, qui est que culture et agriculture sont issues de la même racine, de la même trame, et que lorsque l'agriculture devient un lieu de stricte spéculation, ce qu'elle n'a jamais cessé d'être d'ailleurs par ailleurs, je veux dire de stricte spéculation, et dont on veut absolument extraire tous les éléments non rationnels, et quand on veut uniformiser cet ensemble à des fins de productivisme, eh bien on obtient ce qu'on obtient aujourd'hui, une dégradation profonde des valeurs intrinsèques des matières produites. On obtient un grand désordre psychique chez les gens qui sont censés faire ces métiers, avec beaucoup de souffrance. Et en tout cas pour ceux qui essayent de voir comment l'agriculture et l'agronomie pourra se comporter dans les années qui viennent pour être plus compatibles avec la pérennité du sol, de l'eau, etc., etc.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Eh bien, quand j'ai débuté, donc je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé à faire les marchés. Je vendais les villes.
Mais là, vous étiez seul à ce moment-là?
J'étais seul, oui. Je vivais j'étais revenu en Corrèze. Je travaillais sur les villes et les villages de ma région. Je faisais les marchés et les foires.
Avec des plantes que vous faisiez pousser vous-même?
C'est ça. Donc j'avais des plantes que je ramassais à l'état sauvage, puisque dans le fond, la cueillette n'exigeait pas d'investissement de ma part. Il y avait des communaux, il y avait des lieux que je pouvais ramasser, l'ortie, les ronces, etc., etc. Tout ça était pour moi gratuit à l'époque. Et les gens chez qui je ramassais me laissaient volontiers ramasser. Donc pour moi, ma production, elle était évidente. Elle ne me coûtait rien en matière. Et puis ensuite, puisque bon, quand j'ai débuté, je ne savais pas ce qu'était être un chef d'entreprise. Je ne savais pas ce qu'était un rapport de gestion. Je ne savais pas ce qu'était... J'étais éloigné de tout ça. J'ai appris ça sur le tas, avec beaucoup de problèmes d'ailleurs. Et ensuite, comme je travaillais pour des négociants, comme on va dire ouvriers, ou comme je faisais par exemple des salons, j'avais des négociants qui m'appelaient, comme je travaillais avec eux pour tenir des stands. Par exemple, j'ai fait le premier salon de la diététique à l'hôtel Lutetia pour Joseph Vallée. J'ai travaillé pour Philippe François, j'ai travaillé la Diététique France. Donc j'ai travaillé pour des gens qui étaient déjà avec une certaine orientation. Et au fur et à mesure, j'ai construit un univers d'herboristerie générale. Et ensuite, au début des années 80, donc j'ai participé par exemple à la création avec Nature et Progrès au premier cahier des charges des plantes médicinales bio et des plantes sauvages que nous avons fait, je me souviens plus, de 78-79. Ensuite, j'ai fait par exemple le premier marjolaine à la Bastille avec mon ami Christian Bosquebierne. Puis ensuite, après, on a créé un groupement d'intérêt économique qui regroupait des producteurs français de toute la France, bien sûr, du Nord, du Sud, du Gard, de Corrèze, d'Auvergne, etc. Et nous avons lancé ce groupe qui s'est appelé Les Tisaniers. Et on était 100% de plantes bio issues. Et comme ça, on avait des gammes complètes pour offrir à nos clients. Mais à l'époque, le contexte, la bio était quand même extrêmement marginale.
Et comment se porte l'entreprise dans un contexte? On nous parle de crise économique. Est-ce que cette crise, vous la ressentez? Est-ce que l'entreprise se porte bien?
Alors, l'entreprise se porte très bien. Nous avons, avec le temps... il ne faut pas oublier qu'après 86, au moment de Tchernobyl, nous, on a perdu 80% de notre chiffre d'affaires. Et comme des dizaines de producteurs français, on a failli mourir. Des petites exploitations agricoles ont disparu dans les plantes. Hein. Tchernobyl a fait un dégât considérable, puisque nous vendions nos produits beaucoup à l'exportation à l'époque. Ça a été la fin d'une époque pour nous. Et il a fallu revenir et ne pas mourir de ça. Ça a été une grande école pour nous, hélas. Et au tournant des années 90-2000, on est devenus des professionnels, en quelque sorte. On est passé du stade de gens qui avions survécu à tous nos apprentissages, parce qu'on aurait pu en mourir, à des gens qui avons commencé à concevoir qu'on avait des entreprises... si on voulait aller de l'avant, si on voulait continuer, si on voulait continuer l'aventure, il fallait qu'on survive économiquement. Et là, on n'était pas dans les premiers, parce que beaucoup d'autres avaient mieux réussi que nous économiquement. Mais au tournant des années 2000, on a vraiment... des gens sont rentrés chez moi. On est devenu une vraie entreprise. Et c'est devenu le comptoir d'herboristerie. Vraie entreprise au sens bien gérée, structurée, avec... des investissements, une bonne réflexion, sans perdre de vue nos valeurs essentielles, nos lignes de conduite, nos perceptions générales de la façon dont on voulait travailler. Mais voilà, et ça, on va dire depuis 15 ans, nous avons vraiment fait un travail assez extraordinaire à notre échelle. Ça reste modeste, mais néanmoins... Non, aujourd'hui, c'est pas simple de créer des emplois, mais nous avons quand même une entreprise qui en a créé, bien sûr. Et on contribue à faire travailler des gens en s'attachant à une grande réciprocité, en essayant de comprendre les intérêts, de discuter les intérêts de chacun, en essayant de les associer, de les rendre compatibles, en faisant attention aux conflits d'intérêts. Enfin, bon, voilà, tout ça n'est pas simple, mais se fait. Quant au métier d'herboriste, c'est un métier Alors, nous sommes dans une crise, mais le monde n'a-t-il jamais cessé d'être en crise ? Ce que je trouve atroce aujourd'hui, ce que je trouve insupportable, c'est nous sommes dans un temps où beaucoup de souffrances pourraient être épargnées. On va dire quand la peste arrivait, hélas, on ne savait pas la soigner, on mourait parce qu'on ne savait pas soigner la peste. Vous savez, en blaguant l'autre jour, des fois je préfère discuter avec un gars qui boit 2 litres de whisky par jour et qui fume 4 paquets de cigarettes, mais qui a un cœur qui bat. Mon problème, je ne regarde pas ça. Le monde, c'est, vous savez, la santé, le bien-être, c'est fondamental. Mais c'est ce qui est plus important, c'est que nous sommes des êtres vivants, des êtres humains, que nous vivons les uns avec les autres, et que les valeurs dont nous avons hérité, pour ma part, les valeurs chrétiennes, sont fondamentales et sont, en tout cas, ce qui me porte. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut, ça ne résume pas tout, mais ça porte énormément de lignes de conduite, ça donne la ligne de conduite, et on essaye d'être un peu moins pire que ce qu'on pourrait être si on se contentait simplement d'être en bonne santé et de gagner beaucoup d'argent. La question de l'herboriste, pour conclure cette partie-là, la question de l'herboriste, elle est complexe, car pour le grand public, l'herboriste est dans l'imaginaire aujourd'hui. Et hélas, la loi, l'encadrement fait que, hélas, ou d'ailleurs les circonstances font que c'est ainsi, la loi ne permet pas à un herboriste aujourd'hui d'exercer, puisqu'elle a été, cette loi, en 1942, je crois, a été abrogé. Le diplôme a été abrogé. Triste fin. Mais c'était dans l'air depuis très longtemps, puisque c'était, on va dire, l'industrie triomphante. Et il faut être nuancé quand on parle à bon droit, parce que on était passé d'un monde où les gens mouraient parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques. Je ne suis pas en train de dire que la pharmacie n'a fait que reculer le monde. Enfin, je veux dire que il y a eu des progrès fondamentaux qui ont été apportés par des chercheurs qui ont trouvé des produits comme la pénicilline, comme la digitaline, qui sont d'ailleurs pour la plupart extraits de plantes. Donc je ne nie pas les bienfaits de la science et de la médecine. Aujourd'hui en chirurgie, c'est absolument fabuleux ce qui s'opère, ce qui se fait. Simplement, ce monde a oublié, ce monde novateur, moderne, qui allait de l'avant, il pensait qu'on allait régler tous les problèmes de cette façon. Or, non, l'homme ne se règle pas, n'est pas qu'une mécanique. L'herboriste et la tradition phytothérapique française, et qu'on retrouve sous toutes les latitudes de par le monde, apportent à l'homme quelque chose dont il sent aujourd'hui qu'il a confusément besoin, qui ne relève pas de la posologie, qui ne relève pas non plus de la magie noire, mais qui relève d'une sensibilité au monde. Et la plante aujourd'hui, et les gens le savent et le sentent, nous apporte une sensibilité que nous ne savons trouver que là. Et c'est pour ça que les gens se tournent vers ces médecines, parce qu'elles apportent un soulagement, mais aussi une réponse à la limite du raisonnable. Mais nous avons aussi besoin de cette limite du raisonnable. Ça ne veut pas dire que je suis un idolâtre, je ne me prosterne pas devant les plantes. Les plantes ont plusieurs niveaux. Elles ont un usage médicinal, elles ont un usage de confort, mais elles ont aussi un usage de bien-être au sens noble du terme. C'est pas seulement, c'est un sens de partage, c'est un sens de d'où je viens, d'où j'émerge. Avec cette connotation de dans l'esprit imaginaire humain du jardin d'Éden. Et je crois qu'il ne faut pas évincer ça, car c'est une des sources du partage entre hommes et entre humains dont nous avons besoin.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.